Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne.
Nous continuons aujourd'hui la 7e série d'études consacrée à ce livre et nous abordons le chapitre 19. Ce chapitre relate les incidents qui se sont déroulés lorsque le peuple de Dieu est arrivé au pied du mont Sinaï. Robert est de retour parmi nous et, pour commencer, il va nous rappeler les grands événements qui figurent dans les 18 premiers chapitres du livre de l'Exode. Robert, bonjour.
Merci Yann et bonjour à tous. Au début du livre de l'Exode, le peuple de Dieu se trouve en Égypte où il souffre de la cruauté d'un pharaon tyrannique qui les a réduits à l'esclavage sur ses chantiers de construction. C'est dans un tel contexte que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, annonce son intention de délivrer son peuple et d'accomplir ses promesses à son égard. Mais Pharaon s'oppose à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie sur le pays d'Égypte une suite de fléaux dévastateurs. Puis Pharaon finit par céder à la volonté de Dieu et il laisse partir ce peuple. Mais peu de temps après, il change d'avis et part avec son armée à la poursuite de ces gens. Toutefois, Dieu, miraculeusement, ouvre un passage à travers la mer Rouge, ce qui permet au peuple d'échapper à Pharaon, dont l'armée est engloutie quand les eaux de la mer se referment sur elle. À présent, le peuple commence à traverser le désert pour se rendre vers la terre promise. Dieu pourvoit à ses besoins en lui accordant de l'eau et de la nourriture et en le protégeant de ses ennemis. Au chapitre 19, le peuple arrive au pied du mont Sinaï et Dieu annonce à Moïse son intention de conclure une alliance avec son peuple.
Merci Robert. À présent, Sandra va nous lire dans Exode au chapitre 19, les versets 10 à 15. Ce texte nous décrit la façon dont le peuple doit se préparer pour le jour où Dieu va se révéler pour conclure cette alliance.
L'Éternel dit à Moïse : Va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements, qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement : Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le tuera à coups de pierre ou on le percera de flèches. Qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. Il lavèrent aussi leurs vêtements, puis il leur dit: Tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel avec votre femme.
Merci. Nous retrouvons Robert. Il va nous aider à comprendre ce texte. Robert, lors des chapitres précédents, nous avons appris que Dieu est comme un bon berger pour son peuple. Il demeure à ses côtés et le conduit à travers le désert. Il lui donne de quoi boire et de quoi manger. Il le protège du danger et le fait triompher sur ses ennemis. Toutefois, au pied du mont Sinaï, le temps semble changer.
C'est vrai, Yann. Dieu va se révéler de façon extraordinaire sur le mont Sinaï, mais seuls Moïse et Aaron auront le droit de gravir la montagne pour le rencontrer de près. Le peuple devra rester en bas et ne pas franchir certaines limites établies autour de la montagne. Il verra Dieu se manifester de loin. Toutefois, pour jouir de ce privilège, il devra accomplir des rites de purification.
Pourquoi le peuple devait-il regarder de loin Dieu se manifester?
Pour deux raisons. D'abord, Dieu allait révéler des traits importants de sa nature et de son caractère. Ensuite, il voulait préparer son peuple afin qu'il soit bien disposé à respecter l'alliance qu'il allait conclure avec lui et la loi qui sera au cœur de cette alliance.
Pouvez-vous développer ces deux thèmes, s'il vous plaît?
Bien sûr. En établissant des limites autour de la montagne et en demandant au peuple de se purifier même pour voir Dieu de loin, le peuple allait comprendre qu'il est inaccessible. En fait, Dieu allait révéler sa sainteté et sa justice. Lorsque nous déclarons que Dieu est saint, cela nous rappelle qu'il est différent. Il est transcendant, il est autre, il est esprit, alors que nous sommes des créatures. Cela nous fait comprendre aussi que Dieu est pur et juste. Dieu est parfait et il n'y a pas de trace de mal en lui. Quant à nous, nous sommes de nature moralement et spirituellement injuste et impur. Nous sommes imparfaits et pour être franc, le mal est bien enraciné dans nos cœurs. Dieu qui est saint ne peut ni cohabiter avec le mal, ni vivre en communion avec des personnes qui ne sont pas saintes. En posant des limites autour du mont Sinaï, Dieu rappelle qu'il est inaccessible. Il rappelle qu'un fossé de séparation existe entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Il rappelle aussi que ce fossé est infranchissable et que la peine pour toute transgression est la mort.
La situation est vraiment gravissime.
Effectivement. Je pense que tous ces préparatifs et limites devraient servir d'illustration pour aider les gens à mieux comprendre la loi que Dieu allait bientôt révéler.
Eh bien, expliquez-vous sur ce point, s'il vous plaît.
Nous pouvons dire que la loi, les 10 commandements, créent des limites autour de nous que nous ne devons pas franchir. Nous pouvons nous imaginer vivant dans un champ. Ce champ est clôturé sur tous les côtés. À l'intérieur, nous jouissons de la liberté, mais nous n'avons pas le droit de dépasser les clôtures. Or, la loi, elle est comme ces clôtures. Ne pas pratiquer l'idolâtrie représente une clôture. Ne pas commettre de meurtre en est une autre. Tout comme l'interdiction d'adultère et de vol, pour n'en citer que certaines. La loi nous aide à discerner le bien du mal. Cependant, si nous désobéissons à la loi, c'est comme si nous franchissions ces limites autour du pied du mont Sinaï. Nous devenons, par la désobéissance, des personnes injustes dans la présence du Dieu saint. Et la conséquence est la mort. Nous apprenons aux enfants à ne pas jouer avec le feu, car il pourrait se brûler et rester marqué à vie. Le feu est utile. Il apporte de la chaleur. Il permet de faire la cuisine. Cependant, il faut rester prudent avec le feu, ne pas trop s'en approcher, au risque de se blesser. De la même manière, il ne faut pas se moquer de Dieu, qui est bon, mais aussi parfaitement saint, car notre destin éternel est en jeu. Dieu va révéler sa loi, et il veut que son peuple la prenne très au sérieux. Nous devons révérer Dieu et respecter les lois ou les clôtures qu'il met en place. Car elles sont là pour nous protéger du danger et pour assurer notre véritable bien-être.
Merci Robert pour ces bonnes explications. Cependant, un détail me rend perplexe. Dieu demande au peuple d'accomplir des rites de purification et de s'abstenir de tout rapport sexuel la veille. Et pourtant, il ne lui permet toujours pas de monter sur la montagne. À quoi servent donc ces rites de purification ?
Même si le peuple d'Israël n'avait pas le droit de gravir la montagne, il allait quand même vivre des moments privilégiés et forts avec Dieu. Il allait être le témoin d'une manifestation extraordinaire de la sainteté et la puissance de Dieu. Il allait de surcroît vivre une alliance avec lui et recevoir la loi divine. Il allait s'approcher de Dieu, même s'il y avait des limites à respecter. Pour toutes ces raisons, il devait se purifier.
Merci de nous avoir ainsi éclairé. Quelle leçon devons-nous retenir de ce texte?
De nos jours, on parle beaucoup de l'amour de Dieu. En effet, Dieu est bon et il est amour. Dieu a dévoilé les richesses de sa bonté et de son amour à son peuple. Cependant, il ne faut jamais oublier que Dieu est juste et saint. nous devons apprendre à vivre à la lumière de sa sainteté, aussi bien qu'à la lumière de son amour. Et pour s'approcher de Dieu, il faut que certaines conditions soient remplies.
Merci Robert. La prochaine fois, nous découvrirons ce qui s'est passé le lendemain, lorsque Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï.
Oui, c'est bien cela. En attendant de vous retrouver, je dis à tous au revoir.
Merci. Robert a soulevé une question importante. Si Dieu est saint, comment s'approcher de lui? Sous quelles conditions pouvons-nous entrer dans la présence de celui qui est parfaitement juste?
Nous avons appris que sur le mont Sinaï, Dieu allait conclure une alliance avec son peuple. Il allait révéler la loi, mais aussi établir, à travers un système de rites et de sacrifices assez complexes, qui pouvait s'approcher de lui et comment. Toutefois, le chrétien ne vit pas sous cette alliance établie avec le peuple d'Israël. Non, il vit sous une nouvelle alliance, scellée par le sang de Jésus-Christ. Est-il possible pour un homme ou une femme de s'approcher de Dieu? Et si oui, comment? Pour répondre à ces questions, écoutons quelques versets de la lettre écrite aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 19 à 23. Ensuite, Étienne nous fera part de quelques réflexions.
Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance.
Toute personne qui met sa foi sincèrement en Jésus-Christ vit un immense privilège. Elle peut s'approcher de Dieu et vivre en communion avec lui. Ce droit et ce privilège ont été acquis par Jésus grâce à sa mort sur la croix. Là, il s'est offert en sacrifice et son sang a coulé de son corps brisé. C'est par ce sang et ce sacrifice que le croyant est entièrement purifié de tout mal et de tout péché. Du coup, nous pouvons connaître Dieu, avoir l'assurance qu'il est notre Père céleste et vivre avec lui comme tout enfant adopté. Nos péchés se dressaient devant Dieu tel un obstacle ou un mur de séparation. Mais grâce à son sacrifice, Jésus a frayé un chemin à travers cet obstacle et ainsi il nous conduit dans la présence du Dieu saint.
Merci Étienne pour cette bonne nouvelle. Nous ne devons pas oublier que Dieu est saint et parce qu'il est bon, au nom de Jésus, il nous accepte dans sa présence glorieuse et bienfaisante.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre notre étude sur le livre de l'Exode. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.